La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
On est toujours lundi 21 septembre 2020 et vous écoutez Radio Piquesse. C'est la midinale, on est dans la deuxième partie, s'informer autrement. Et Steph a lu un livre. Alors, il s'appelle L'histoire de la nuit.
Alors, pas tout à fait.
Oh merde.
Il s'appelle Histoire de la nuit au pluriel.
Bon, okay.
Et c'est un livre de Laurent Mauvignier. Et donc, c'est un livre qui fait partie de la grosse salve là, de la rentrée littéraire. Les trucs, le moment où il y a 600 bouquins qui sortent.
Et t'es tout énervé.
Et en général, je tremble. Et là, celui-là, ça faisait longtemps que j'attendais un nouveau livre de Laurent Mauvignier. Dans les textes parus avant, il y a notamment un texte assez fabuleux qui s'appelle « Ce que j'appelle oubli », qui est un texte, c'est 70 pages et c'est une seule phrase.
Aucune ponctuation.
Si, il y a de la ponctuation, mais il n'y a pas de point.
Okay.
Et c'est une seule phrase, dite dans un, dans un long souffle. Et, et ça vient raconter... c'est tiré d'un fait divers. Ça s'est passé à Lyon, et c'est l'histoire d'un SDF qui a volé une canette dans un supermarché et qui s'est fait tabasser à mort par quatre vigiles. Et donc, c'est le long cri de désespoir de son ami. Donc ça, c'était Ce que j'appelle oubli, qui est un livre fabuleux. Et puis, il avait écrit aussi un autre livre qui s'appelle Des hommes, et qui raconte l'histoire de trois hommes qui ont fait la guerre d'Algérie, et qui ont fait comme si on pouvait ne pas en parler, ou que c'était pas nécessaire, et dont le destin explose 40 ans après. Enfin, c'est toujours très fort chez Mauvignier, c'est toujours extrêmement violent. Et là, c'est un projet assez inédit pour lui, parce qu'il se lance dans l'écriture d'un polar. Alors, l'histoire de ce livre, c'est qu'à la base, il voulait écrire un scénario, parce qu'il a déjà réalisé des films, et il voulait réaliser un pur polar sur une prise d'otage. Et puis, en fait, il s'est rendu compte que son scénario de 25 pages, il voulait en faire un anti-scénario et un anti-polar. Et donc c'est un très long livre qui fait 650 pages. Il y a beaucoup de ponctuation. Il n'y a absolument pas de dialogue. Et la phrase en exergue du livre, la citation, dit « Il y a pourtant des secrets à l'intérieur des secrets, toujours. » Le livre commence par une phrase de 2 pages. Une femme, dans un commissariat, attend de déposer une plainte pour des lettres anonymes. Et cette longue phrase de 2 pages, elle décrit l'homme qui est dehors, son voisin, et c'est lui qui l'a accompagné au commissariat. Ça commence par un truc banal, de haine ordinaire, de lettres anonymes, des gens qui s'emmerdent et qui veulent en effrayer une autre parce qu'elle n'est pas comme eux. Le premier chapitre vient poser le décor en prenant son temps. Ça se passe à la Bassée. La Bassée, c'est un lieu inventé par Mauvignier, mais auquel il revient souvent dans plusieurs de ses livres. Et plus précisément, ça se passe dans un hameau reculé de la Bassée. Le hameau s'appelle l'écart des trois filles seules. Il y a 3 maisons. Il y en a une qui est vide et qui est à vendre. Il y en a une, c'est la ferme de Bergogne, de Marion, sa femme, et de Ida, leur fille. Et puis la 3e maison, c'est celle de Christine, cette femme qui va porter plainte, et de Raja, son chien. C'est le jour des 40 ans de Marion, et il faut préparer la fête. Et on n'a pas vraiment envie de préparer cette fête. On ne sait plus très bien pourquoi on vit encore ensemble. On étouffe, la solitude, on en a marre de cette vie-là. Et puis ça s'installe, ce truc de pourquoi les gens vivent ensemble, et pourquoi ils se touchent plus, et pourquoi ils se regardent plus. Et puis d'un coup, ça bascule dans la terreur et dans l'angoisse. Enfin, d'un coup, pas tout à fait. Je vais vous lire un passage où... c'est à la page 142, donc ça fait déjà 140 pages qu'on nous explique que c'est le jour de l'anniversaire de Marion. Pour l'instant, elle ignore les bruits. N'en est pas encore à les surprendre un peu partout autour d'elle, comme elle va le faire dans quelques minutes. Pour l'instant, elle ne prête aucune attention à ses froissements, ses souffles, ou ses pas qu'elle commencera à percevoir seulement quand elle aura fini d'installer sur la table de cuisine les ingrédients et les ustensiles dont elle va avoir besoin. Pour l'instant, donc, elle ne fait pas attention au bruit de l'extérieur, ni au fait que son chien n'est toujours pas revenu auprès d'elle. Elle se concentre sur ce qu'elle a à faire. Casser les œufs, réserver les blancs, mixer les jaunes, le sucre, le sel, les cerneaux de noix. Ajouter la farine et la levure en continuant à mixer. Est-ce qu'elle pourrait entendre, à ce moment-là, ce qui se passe tout à côté de chez elle, alors qu'elle ne sait pas et n'aurait aucun moyen de savoir qu'au même moment, une main d'homme a déjà tendu un morceau de viande à son chien dans l'étable. Comment elle pourrait le savoir sans aller y voir par elle-même ce qu'elle ne fera pas, parce qu'elle n'y pense pas. Elle pense au gâteau qu'elle doit faire et au tableau qui l'attend, c'est tout. Pas à ce qui se passe juste à côté, et dont elle ne peut rien savoir. Elle mixe encore. Une pâte homogène gonfle. Elle fait monter les blancs en neige, et dans l'étable, la main a déjà jeté le morceau de viande devant le chien depuis un moment. Le morceau, en tombant sur la dalle de ciment, a fait un bruit comme un flop mouillé, flasque. Le chien s'est déjà jeté dessus, non pour le renifler ou pour douter de ce qu'on lui propose, mais pour planter ses crocs sans plus faire attention à la main de l'homme qui le lui a jeté. Le chien attiré, ou plutôt excité par le morceau de viande sanguignolant, et sans voir que, dans la main que l'homme tient serrée si fort autour du manche d'un couteau, la lame brille, comme celle des couteaux de combat, auxquels le chien ne prête aucune attention. Car ce qu'il voit et ce qu'il sent, qui lui prend le cerveau au point de le rendre sourd et aveugle à tout danger, c'est cette viande. L'odeur de viande qui lui rappelle peut-être les sous-bois et la chasse le dimanche matin avec Bergogne. L'odeur des gibiers et du sang des bêtes tout juste mortes. La viande lui fait tellement tourner la tête qu'il ne fait attention à rien et qu'il ne voit pas l'homme en survêtement bleu, le couteau dans sa main, la main qui avance et au même moment, ou peut-être juste quelques minutes après, Christine incorpore délicatement avec une fourchette le blanc en neige à la pâte qui attend à côté d'elle, alors que, au moment où elle va verser la préparation dans le moule beurré et qu'elle aura mis celui-ci dans le four, le chien aura reçu un premier coup de couteau dans les côtes, qui lui aura arraché un couinement proche d'un cri très aigu. Car l'homme, en longeant le mur de l'étable, aura pris le chien à revers, et le chien n'aura rien vu venir, comme asphyxié par le goût de la viande, la gueule dans la viande. Pendant que Christine s'essuie les mains sur son tablier, comme elle le fait si souvent avec la peinture sur sa blouse, le chien a eu le temps de pousser une sorte de cri plus aigu encore que le premier, perçant comme la lame qui vient de lui déchirer les côtes et que la main a déjà retiré d'un mouvement très rapide, sec, fébrile, pour le planter une nouvelle fois, ne laissant pas au berger allemand le temps de se remettre de sa surprise, d'essayer de riposter, de mordre. La gueule claque dans le vide, ça ne dure pas longtemps. D'ailleurs, Christine n'a pas encore eu le temps de faire fondre au bain-marie le chocolat, avec ses 2 cuillères à soupe d'eau, non. La main a plongé dans la gorge du chien et Raja a fini de s'effondrer sur la dalle de ciment. Les forces l'ont abandonné. Il a geint encore, lentement, de plus en plus doucement, comme des pleurs d'enfant, des plaintes, puis rien. Quelques spasmes, l'étonnement, la surprise et la douleur, la gueule en sang recouverte de l'ivresse de la viande, et lui, une masse effondrée, parce que les pattes ont flanché, le corps abattu sur le côté, la tête cognée contre le ciment.
Bon appétit, les auditeurs, auditeurs.
Alors déjà, c'est dégueulasse de commencer par tuer le chien. Sauf que le premier chapitre, quand Christine est allée déposer sa plainte auprès du commissariat, la dernière phrase qui avait été dite de ce premier chapitre, c'est « Mais vous savez, je sais me défendre. Et puis j'ai mon chien. J'ai mon chien. » Et en fait, ce moment-là, et c'est tout le livre va être écrit de cette manière, avec à la fois, il y a une tension extrême, parce que ce qui se passe là, c'est la prise d'otage, enfin c'est le début de la prise d'otage. Donc il y a vraiment une extrême tension dans le livre et une écriture qui va tourner autour tout le temps. Et Mauvignier, il va décortiquer chaque geste, chaque pensée, chaque regard. C'est comme si son livre, qui devait être un film, c'est comme si tout le film se déroulait au ralenti. C'est très agaçant. Et c'est aussi très, très angoissant. Il passe son temps à délayer quand on voudrait savoir vite, quand on voudrait savoir les secrets, parce qu'en fait, l'histoire de ce livre, c'est une histoire de secrets. Quand on voudrait savoir les morts, parce que forcément, il y en a. Il tourne autour des faits, il tourne autour des âmes, et il creuse tout le temps au plus près. Il va prendre tous les angles. Quand les gens se regardent, il va prendre tous les angles des regards possibles. Et Laurent Mauvignier, il dit qu'il ne faut surtout pas trouver le mot juste. Parce que le mot juste, il viendrait écraser tout. C'est comme si le mot juste, il était définitif. Et en fait, toute son écriture, c'est d'essayer de nous faire voir comment on est jamais juste et définitif. Et c'est en ça que il est incroyable, ce livre. Absolument incroyable. C'est
avec un suspense de dingue, du coup.
Ouais, jusqu'à la dernière phrase.
Bien.
C'est très très beau. Ça s'appelle « Histoire de la nuit » de Laurent Mauvignier.
Merci. Alors Lionel, tu voulais nous parler, pour s'informer autrement, il existe aussi « Aou », un petit magazine.
Oui, donc c'est un petit magazine, bon, à la base, ici nous vend des gilets jaunes, mais qui dépasse largement ça. Je voulais juste revenir sur le truc d'avant parce que du coup j'ai eu le temps de réfléchir. Non, par rapport à au sujet d'avant là, sur les gilets jaunes, c'est que je pense qu'il faudra qu'on soit stratégique et beaucoup plus stratégique et donc qu'on aille sur les revendications économiques, notamment pour ne pas être stigmatisé par les médias et aller dans les diversions qui nous amènent autour de l'ensauvagement, des masses, des machins, donc pas aller sur ce genre de terrain de jeu. Et donc voilà, y avoir un minimum, une ligne commune et claire autour de revendications simples. Alors sur AOU, donc il y a eu le AOU numérique qui est paru le 15 août, donc qui est sur le site giletjaunesbresse.com, qui est assez long, ce numéro-là. Ça se veut, enfin ça s'essaye à des articles de fond. L'édito, on va dire que c'était le titre, c'est Attention à la mystification écologiste, soit l'escamotage de la lutte des classes par une écologie qui se veut respectable, c'est-à-dire non incompatible avec les intérêts du capital. Donc voilà, bon, celle-là, on pointait dans ce numéro l'espèce d'alliance de traîneau là, un peu bizarre. Donc il y aura Olivier Faure. Bon, après, ça dépend de qui gagne la primaire et comment ça se passe à Europe Écologie des Verts. Donc, mais avec Jadot, en fait, c'est assez inquiétant comme alliage là, qui va nous faire. Donc, cette espèce de retour de la gauche plurielle. Voilà, moi j'ai beaucoup de craintes que Macron soit élu en 2022, en fait, 2 heures avant. Et donc on avait un autre sujet, par exemple, je fais vite, hein, parce que je ne vais pas dire, tous les dire, il y avait une dizaine d'articles différents ou de rubriques différentes. Il y avait un sujet sur Michel Onfray, donc voilà, moi je trouvais que c'était un symptôme. Donc on a eu un été où les grands médias des milliardaires et pointaient beaucoup sur l'ensauvagement de la société. Un été orange mécanique, dixit un élu, Les Républicains. Est-ce que c'est Xavier Bertrand? Non, c'est qui? Je ne sais plus lequel c'est. Séparatisme, communautarisme, machin, en fait. Et là, on est encore dans un truc d'escamotage de la lutte des classes, je suis désolé, parce que on arrive quand même à un truc où on va se taper une des plus grandes crises de l'histoire économique, une des plus grandes crises économiques de l'histoire, et non, le problème, ça va être l'ensauvagement de la société, donc, et sans jamais de chiffres avancés. Et donc avec de plus en plus de gens d'extrême droite ou réactionnaires et réactionnaires qui arrivent dans ces chaînes d'information continue et tout ça, il y a un article intéressant d'Acrimed qui fait un peu le bilan là, parce que et CNews continue d'agréger en fait toute cette frange là. Il y a Eugénie Bastier qui arrive sur CNews. Et Michel Onfray, du coup, était assez symbole d'une dérive, en fait. Et puis, il est devenu une espèce de toutologue qu'on invite à commenter le moindre fait divers. Quoi. Bon, pour un philosophe, ça fait un peu limite. Et du coup, il a deux angles d'attaque. C'est de critiquer un gauchisme culturel. Donc, c'était l'espèce de... Ça, c'est des théories qui sont arrivées à gauche, notamment pour critiquer aussi les nouveaux philosophes et une espèce de gauche un peu libertaire qui, en gros, qui a abandonné la classe ouvrière et qui a tout axé sur des sujets sociétaux. On sait qu'il y avait eu... Onfray dit que c'est un rapport de la Fondation Terra Nova. Nous, on avait écrit une fois que c'était la Fondation Saint-Simon, alors il faudrait vérifier... qui avait fait un rapport pour dire en gros au Parti Socialiste là de toute façon c'est en rétractation la classe ouvrière, donc miser plutôt sur les femmes, les CSP+, et voilà quoi. Et donc lui, à force de... c'est une analyse moi que je peux partager, mais il y a la manière de le faire, il y a la manière de parler de ça, parce que lui, la façon dont il en parle, ça devient... enfin voilà, avec un ami de gauche, parce qu'il se dit de gauche, la gauche n'a pas, comme lui, la gauche n'a pas besoin d'ennemis. Quoi. C'est bon, c'est... Et sur le plan économique, en fait, c'est assez intéressant de voir aussi qu'en fait, à force de... Il a toute une attaque sur le marxisme, et donc il se dit... il ne se dit pas anticapitaliste, il se dit contre, finalement, bon, le marché à tout va. Pour moi, hein, je suis désolé, même si c'est un grand philosophe, soi-disant. Je suis désolé, mais
L'histoire le dira.
Ouais.
Non, mais c'est. Enfin, je suis désolé, moi, je me suis quand même un peu intéressé à deux, trois trucs. Mais sa vision de l'économie et de dire que le capitalisme a toujours existé et que. Enfin, non. En fait, c'est juste qu'il y avait des formes, si tu veux, embryonnaires de capitalisme, par exemple des sociétés de moulins par action, je ne sais plus quel siècle, 16e siècle, ou même en Grèce antique, on a vu des phénomènes d'accumulation du capital, mais ça ne faisait pas système, ça ne faisait pas monde, ça ne faisait pas... Et donc, voilà, pour moi, il a une vision... Enfin, voilà, il parle sur tout et n'importe quoi, mais en fait, il ne maîtrise pas, là, du tout, quoi. Il suffit de lire... Fernand Braudel ou Karl Marx ou machin pour... je sais pas, pour moi, avoir... je pense qu'il manque en fait de vision matérialiste, c'est-à-dire un peu en partant de l'analyse concrète des choses économiques, des rapports de classe et tout ça, et on arrive à une espèce de truc, en fait, compatible avec les intérêts du capital, et il faut pas s'étonner qu'il soit invité si partout. Souvent, partout, c'est qu'il doit pas être très bien dangereux, et que il peut diviser la gauche, et c'est très bien, et par contre... Ça a l'air anecdotique comme ça, mais il faut voir que rien que quand il a fait une interview sur le site Thinkerview, il est arrivé très vite à 1,4 million de vues. Ce que Jean-Luc Mélenchon a fait, mais il était interviewé il y a plus d'un an. J'ai regardé, on va dire, sur 30... on va dire qu'il y en a 3 qui font plus d'un million, quoi. Si tu prends 30 interviews de gens différents, il y en a 3 allez, à la louche qui font... Et là, sa revue, elle s'est assez bien vendue. Enfin bon, voilà, c'est...
Ah, il a une grosse portée médiatique.
Hein. Ah ouais, sûr. Et puis il est soutenu par des... Et lui, ça ne lui dérange pas, en fait, d'être soutenu par des mecs comme Berkoff de Radio Sud, par tous les mecs à moitié réac. Et il faut savoir que dans sa revue Front Populaire, donc, dont le dernier titre est très putassier, c'est L'État profond. Donc voilà, ça fait frémir, c'est ça... Là, c'est un peu sulfureux, qui c'est qui tire les ficelles, machin, il y a un truc. Moi, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire quand il le définissait dans les médias, d'ailleurs. Et dans cette revue, il se défend que ça soit des pubs, mais en gros, il y a une pub pour Valeurs Actuelles, quoi. Et peut-être un autre journal. Et les seules pubs qu'il y a, c'est pour Valeurs Actuelles. Alors, c'est pas une pub, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que Valeurs Actuelles va pouvoir mettre une page Front Populaire dans leur truc. Et il va faire pareil pour Marianne, dans le enfin, peut-être dans celui-là, justement, il a fait pour Marianne et tout, quoi. Et donc, autant vous dire que sur...
Que des copains.
Oui, et que depuis le 15 août où, j'ai, où a été écrit ce, ce AOU numérique, autant vous dire que sur ce qui est arrivé par rapport à Daniel Obono et la boue lancée par Valeurs Actuelles, alors lui, il dit c'est normal hein, de prendre des coups, machin, il a pas l'air de voir le problème et tout, enfin bon, voilà, quoi. Et donc, il y a... Dans le AOU numérique, là, on élargissait sur un truc plus large. C'est, voilà, c'est le climat nauséabond dans les médias. Et qu'est-ce que va de la campagne présidentielle à ce rythme-là ? C'est, un, ouais. C'est assez flippant. Enfin, c'est assez hallucinant, en fait.
Et... Ouais, pour moi, tout à l'heure, tu disais que t'as peur de voir Macron réélu, ce qui n'est pas réjouissant hein, comme perspective. Mais pour moi, ce qui se prépare là, c'est plus l'élection de Le Pen. Enfin, et c'est, ça a été décidé. Des gens comme Bolloré qui donnent une, part, une telle part à des, soit des éditorialistes d'extrême droite, soit directement des cadres du Front National sur leur chaîne, c'est pas anodin. Non. Et pour moi, ce climat nauséabond là, il est construit pour. Ouvrir la voie à Marine Le Pen, comme on nous bassinait de Macron il y a 5 ans, et ben là on nous bassine de faits divers de merde, de la parole et la pensée Front National, ou Zemmour ou machin. Et enfin, tu vois, pour moi, il y a qu'une seule, un seul résultat possible à ça.
Ça m'amène un peu à faire une transition du coup avec. On parle beaucoup d'Emmanuel Todd là dans le dernier livre, dans le dernier AOU numérique avec donc le dernier livre de Emmanuel Todd, Les luttes des classes en France au XXIe siècle, donc il fait référence au livre de Karl Marx. Et donc lui, par rapport à ça, il dit que la classe ouvrière est en rétractation, que c'est un suicide du prolétariat de voter Rassemblement National et que c'est pas du tout rassembleur. Et que lui, il voit que mécaniquement, en fait, il y a un. Bon, je ne vais pas utiliser l'expression plafond de verre, mais enfin, mécaniquement, il y aura une... enfin, voilà, il y a une limite à l'extension du Front National. Et il voit aussi, au niveau statistique, un truc incroyable. J'ai oublié le terme qu'il utilise. Mais en fait, c'est un outil statistique qui te fait que à arriver à, à dépasser un certain chiffre, ça veut dire qu'il y a une identité des deux variables. Et là, les deux variables, c'est le Rassemblement National et Macron et l'AREM. Donc c'est le vote RN et le vote l'AREM. C'est-à-dire que si tout est inversé, en fait. Si tu prends les là où le vote le plus fort... Front National, tu vas avoir l'AREM le plus faible, et t'as vraiment un truc complètement opposé. Et lui, dans son truc statistique, il dit que qu'en statistique, on voit ça, et normalement, on conclut à l'identité des deux variables analysées. Et tout ça pour dire que t'inquiète pas qu'ils te vendront aussi le héros contre le fascisme et le rempart contre le fascisme. Et
bof. Enfin, si tu regardes ce qui se raconte là en ce moment à la télé, bof.
Bah Macron va essayer en tout cas
le très fameux édito du Télégramme, le poison de l'indigénisme, là, ouais, donc, voilà. Qui reprenait tous les poncifs de l'extrême droite. Il tapait aussi sur Macron, enfin pas sur Macron directement, mais sur le Belloubet et donc la ministre de la Justice et Castaner, le ministre de l'Intérieur, donc spécifiquement les postes, disons, orientés Front National, et ça tapait dessus. Hein. Et pendant ce temps-là, ça a cité De Villiers. Ouais. Donc pour moi, le parti pris, il est quand même
assez clair. Hein. C'est assez flippant. Bon, Macron va essayer, mais oui, c'est...
À la télé, là, l'étude d'Acrimed que tu citais, ça montre clairement qu'à la télé, passe à 95% soit des extrémistes extrême droite, soit des gens dits de droite, donc ça veut dire genre les républicains qui peuvent très bien échanger avec des gens du Front National, et ils seront d'accord sur tout quasiment. Et point barre, quoi. À 95%, c'est ça le discours. Ouais. C'est même plus. Macron, c'est un. Tu sais, les bourgeois barbarisés. Mais c'est très peu de gens, bon, voilà, qui, c'est les gens qui applaudissent quand les flics chassent les gilets jaunes des rues de Paris, etc. Mais c'est tout petit, ça. Tandis que le sentiment genre raciste, le fond de commerce du Front National, quoi, disons, à force de le bassiner, ben, ça va finir par marcher. Hein.
Il y a un gros risque. Bon, on a pu lire sur les murs de la ville une affiche disant le fascisme, boîte de sauvetage du capital. Là, il y a une grosse crise économique qui commence. Elle aura bien le temps de se développer d'ici 2022. Donc, les troupes sociaux et tout ça, bon, on a vu que les flics étaient en roue libre et qu'il y a une espèce de descente vers un état policier et tout ça. C'est-à-dire que Marine Le Pen arrivera au pouvoir, elle aurait déjà. Il y aurait beaucoup du travail qui serait déjà fait. Et il y a quand même un gros risque, effectivement, comme tu dis, ça rejoint le sujet d'avant, c'est-à-dire que. Si on pointe pas le, en fait, les revendications, enfin voilà, la lutte des classes et le fait que des, les revendications économiques, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances que, enfin il y a un gros risque un peu fasciste, enfin néo-fasciste, et voilà. Mais je sais plus ce que je voulais dire.
Là, j'étais un peu coupé, désolé.
Non, mais c'est le.
T'étais sur le livre d'Emmanuel Todd.
Ouais, non, mais justement sur le par rapport à Emmanuel Todd, ce qui était intéressant aussi, c'est de voir cette analyse en termes de classe qu'il fait, c'est-à-dire que quand il analyse les votes et quand il voit une dans son livre, en fait, une, même avant la crise, en fait, une baisse du niveau de vie d'à peu près tout le monde, sauf les 1% les plus riches. Et lui, il en conclut de la possibilité d'une lutte de classe avec alliance de classe, mais contre ces 1%. Alors, nous, on a parfois utilisé ça pour faire une espèce de chose de propagande, machin, tout ça, tout en étant lucide que il y a ce 1%, mais il y a aussi le 19% en dessous, qui a quand même des intérêts à ce que ces systèmes perdurent et à servir les 1%, on va dire, pour schématiser, et qui, avant qu'ils se retournent totalement... c'est peut-être pas demain la veille, mais bon, ça peut être un axe de travail et vraiment axé là-dessus, quoi. Et donc, on peut voir, notamment dans les milieux écologistes, c'est pas tout à fait les mêmes classes sociales, par exemple, que les gilets jaunes, tout ça. Bon, voilà, bon, il y a l'espoir, en fait, qu'il y a aussi des cadres, des classes moyennes qui se détournent un peu, en fait, du modèle qu'on leur vend, quoi. Mais, et ce qui est très compliqué, c'est que justement il analyse une masse atomisée de 5, je crois que c'est de 50% qui a voté un peu tout et n'importe quoi depuis longtemps. Là j'ai pas les chiffres, mais bon ils ont voté vert, à un moment ils ont voté RN je crois que c'est aux dernières européennes. Ils avaient voté Hollande, ils ont voté un peu, ils ont voté Chirac aussi à un moment. Enfin, ils ont voté un peu tout et n'importe quoi. Et donc dans les articles, on disait que peut-être qu'il y avait. Est-ce que l'écologie, en espèce de nouvel humanisme, tu vois, pourrait pas correspondre certaines personnes un peu dépolitisées, qu'ils diraient machin. En plus des cadres et professions intellectuelles supérieures qui passeraient un peu de Macron aux écolos, aux dernières municipales dans les grandes villes et tout ça. Enfin bon, et donc du coup on fait aussi une analyse un peu des résultats des dernières municipales, voilà. Et pour conclure un peu. Disons qu'il va y avoir des mouvements sociaux, ça paraît à peu près clair. Là, pour l'instant, moi, ce que j'en vois, c'est que bon, l'auto-organisation, tout ça, c'est très bien, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que ce soit beaucoup plus et que ce soit plus massif et mieux organisé et qu'il y a un moment, faudra y aller un peu plus, voilà. Et sans vouloir proposer de centralisation ou que ça soit plus vertical, mais bon, il y a un moment, en fait, il faudra
organiser pour faire des trucs, quoi.
Ouais, et puis surtout faire, quoi. Enfin, qu'il y ait une profusion plutôt que ça soit la délibération permanente et puis avec très peu de personnes qui font très peu de choses et tout ça. Et c'est vrai qu'on a beau dire, on a beau faire, la France c'est quand même très centralisé et t'as l'élection présidentielle et ça va être un enjeu majeur. Et que va-t-il se passer d'ici là? Ça peut être un beau merdier. Ouais.
On va faire une pause musicale et on va revenir pour la dernière partie. L'agenda est tout et pas rien. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Je crois qu'on écoute Offsgang.
Ouais.
Ouais. Allez, bonne conduite, ça s'appelle.
Juste l'admettre.
Bonne conduite, il te faut la bonne conduite.